Exode 21-24, Lévitique 19-18. J'avais un professeur d'écriture sainte, quand il entendait ça, il disait « Je ne connais pas par cœur tous les numéros de téléphone. » C'était le père Thomas Kowalski, il disait ça avec son gros accent pour nous dire que les références exactes des citations de l'Ancien Testament, ces références bibliques, sont certes effectivement importantes. Exode chapitre 21 verset 24, livre des Lévites du Lévitique chapitre 19 verset 18, c'est important de les connaître, mais c'est relativement secondaire. Ce qui est important, c'est de pouvoir situer ces deux livres. Les deux livres de la loi, le livre de l'Exode, le livre du Lévitique, avec les trois autres livres qui forment ce qu'on appelle le Pentateuque, avec la Genèse, les Nombres, le Deutéronome. Quand je suis entré au séminaire, je n'avais lu entièrement aucun de ces livres, comme la plupart d'entre vous, d'ailleurs comme la plupart des catholiques. Très peu de catholiques lisent la Bible de façon continue. Parce que nous recevons à la messe ces extraits, ces passages, on peut le dire d'ailleurs dans un terme, nous en recevons les meilleurs morceaux. Et je peux vous le garantir, je peux vous l'attester, parce que maintenant que je pratique les deux, la lecture continue tous les jours, ce qui fait partie de ma mission. Et puis, ces extraits aux messes, je peux vous assurer que le dosage est bon. Non seulement que la sélection est bonne, mais le dosage est bon. L'Église nous donne à chaque messe la nourriture, la quantité de paroles de Dieu dont nous avons besoin pour vivre. Fondamentalement le dimanche, il y avait certes la messe de toujours, mais fondamentalement le dimanche. L'homme, c'est ce que nous entendrons dimanche prochain, l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puisque nous commençons le carême dans 3 jours, mercredi décembre, certains peuvent y penser d'ailleurs comme bonne résolution, plutôt que de penser de quoi on va se priver, de quoi on va jeûner, de quoi on va se nourrir. De pouvoir lire tous les jours les textes de la messe, au moins l'évangile. De prendre le temps de laisser descendre l'évangile dans notre cœur. Idéalement, qu'est-ce qu'on fait? On lit la veille au soir, en se couchant, l'évangile du lendemain, ou le matin en se levant. Si possible, 5-10 minutes, un temps de méditation, pouvoir... Et puis, garder une phrase qui nous accompagne tout au long de la journée. Vivre de la parole de Dieu. Exode 21-24, Lévitique 19-18, ce sont ces deux références que Jésus cite dans le passage qu'on vient d'entendre, avec, en utilisant cette formule, « Il a été dit ». Nous l'avions entendu dimanche dernier, « Il a été dit aux anciens, il a été dit ». C'est ce qui peut résumer ce que nous appelons une tradition religieuse. Une tradition religieuse, ce qui a été dit aux générations qui nous ont précédés et que ces générations nous transmettent. Nous sommes les descendants des générations de baptisés. Nous sommes les descendants de générations de chrétiens. Nous ne sommes pas une génération spontanée. Tous les chrétiens, c'est une génération qui ont fait la France, la grandeur de la France, mais fondamentalement la grandeur de l'Église, un peuple de saints. Et aujourd'hui, celui qu'on appelle l'ennemi, l'antique ennemi, le diable, le serpent, peut toujours distiller son venin, essayer de faire croire à chaque nouvelle génération qu'elle est plus intelligente que la précédente. C'est ça la tentation du diable, c'est de dire non, non, vous êtes bien plus intelligent que vos parents. C'est pas vrai. Ni meilleur, ni pire, aussi prétentieux, aussi vulnérable. Et le seul qui puisse le dire, le seul qui puisse le dire, et que vous puissiez, que nous devions croire, c'est le Christ. Il a été dit, eh bien moi je vous dis. Et il a été dit, et moi je vous dis, il le dit il y a 2000 ans, il le dit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous dit. De quelle façon, justement, nous devons entendre ces textes? Exode 21-24, Lévitique 19-18, on va commencer par Exode 21-24 parce que c'est un texte de justice sociale. C'est un texte qui fixe une règle morale de proportionnalité dans nos réactions en cas de dol, dommage. Le texte dit en cas d'accident. S'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie. Une réponse proportionnée, la proportionnalité, c'est la seule façon de garantir la paix, d'éviter l'engrenage, l'escalade, de pouvoir normaliser nos relations. C'est un excellent principe de mesure, de juste réciprocité. C'est ce que Jésus, au moment de sa passion, rappelle au garde qui le gifle devant le grand prêtre. Il dit, mais pourquoi passer du langage des mots au cou? Pourquoi est-ce que tu me frappes? Si j'ai mal parlé, explique-moi. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frapper? Et pourquoi est-ce que le garde le frappe? Parce que c'est ce qu'on a fait avec lui. Parce que c'est ce qu'il voit faire. Parce qu'on ne lui a rien appris d'autre. Parce qu'il ne dispose ni de la patience, ni du langage, ni de la maîtrise de soi pour pouvoir se comporter comme nous voulons nous comporter humainement. La patience, le langage, la maîtrise de soi. Nous sommes allés à l'école, et là, les enfants, vous allez retourner demain à l'école pour continuer à apprendre ce que vos parents, c'est leur mission, ont commencé à vous enseigner, à écouter, à vous exprimer, à vous réfréner. Et même lorsque nous prions dans la prière, nous prions pour continuer à apprendre à écouter, à parler du fond du cœur, à partager. En Dieu, la patience est infinie. La patience est infinie. C'est le signe suprême de son amour. Sa patience avec chacun de nous, avec nous tous, avec l'humanité. On peut dire même que la patience, c'est l'être même du Père. D'une puissance. La parole, c'est son Fils. Le Verbe fait chair. Et pendant le carême, nous l'acclamerons ainsi. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Et le Saint-Esprit, son nom, c'est le don. Le don, c'est-à-dire la force de ne pas garder pour soi. La force et la beauté du partage, de la générosité. Écouter, parler, partager. Et ça nous amène à la deuxième citation que Jésus fait de l'Ancien Testament, après Exode 21-24, Lévitique 19-18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et l'Église qui est bonne nous donne le texte en première lecture, en vis-à-vis de l'Évangile. Il correspond, il complète parfaitement ce que dit le livre de l'Exode. Attention à la vengeance. Tu ne te vengeras pas même, tu ne garderas pas de rancune dans ton cœur envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Et voilà que Jésus ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton ennemi. Phrase qui ne se trouve nulle part dans la Bible. Pourquoi Jésus ajoute-t-il cette phrase ? Tu haïras ton ennemi. Il a été dit aux anciens, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Parce que c'est ce qu'il constate. Non pas que nous sommes promptes, que nous avons beaucoup de facilité à aimer ceux qui nous aiment, et pas tellement aimer ceux qui ne nous aiment pas. Il n'y a pas besoin d'être Dieu pour le constater. C'est ce que nous vivons sans cesse, c'est ce que dit l'Évangile. Si vous aimez que ceux qui vous aiment, dépêchez-vous de venir à la messe. Vous savez, je dis souvent aux personnes en disant, mais on le constate partout, dans nos familles, la façon dont on est sélectif. On ne garde de nos familles que ceux avec qui on s'entend bien. Et puis parmi nos amis, il y a ceux avec qui il y a des relations sympathiques, faciles, et puis on garde quand même des relations utiles. Il faut avoir parmi nos connaissances, parmi nos amis, un certain nombre de professions indispensables. Un médecin, un avocat, un plombier, un informaticien, on peut faire la liste comme ça. Éventuellement un prêtre, on ne sait jamais. Si vous ne fréquentez que ceux qui vous ressemblent et qui vous sont utiles, dépêchez-vous d'aller à la messe, dit Jésus. Non, pourquoi dit-il ça? Il ne constate pas, nous le constatons tous, ce décalage entre des relations faciles et puis plus de difficultés. Ce que dit le Christ, c'est notre facilité à modifier sa parole pour qu'elle corresponde à notre vie, alors qu'il nous demande exactement l'inverse. De modifier notre vie pour qu'elle corresponde à sa parole. Combien de fois m'arrive-t-il de dire, à commencer à me dire à moi-même, arrête de chercher à faire entrer Dieu dans ta vie ou dans une petite partie de ta vie. Tu ne peux pas faire rentrer Dieu comme avec un chausse-pied ou de force dans une partie de notre existence. On ne peut pas faire rentrer Dieu dans notre vie, il est Dieu. C'est à nous à entrer dans la vie de Dieu. C'est à nous tourner vers lui. Lorsque le pape nous appelle à sortir, c'est pas seulement de nos églises, à sortir de nos replis pour entrer dans la lumière de Dieu. Faire entrer Dieu dans notre vie, c'est aussi absurde que de vouloir prendre l'ensemble de l'univers, toute la galaxie, et la mettre dans notre poche ou dans notre agenda. Faire entrer Dieu dans notre vie. Pourtant, ne dit-il pas dans le livre d'Apocalypse, « Je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, je ferai ma demeure chez lui. » Pourtant, n'est-ce pas ce que nous allons vivre dans cette messe? Ne va-t-il pas venir en nous par l'Eucharistie? N'est-ce pas la volonté de Dieu de vouloir demeurer en nous? C'est ce que le Christ dit. Assurément, mais d'abord nous en lui. Nous butons fatalement sur ce commandement d'amour de nos ennemis. Si nous partons de nos propres capacités, si nous partons de notre propre capacité aujourd'hui à aimer, nous voyons à quel point nous sommes inconstants, infidèles, en tout cas très faibles, déjà avec ceux qui nous aiment. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de renoncer à nos forces, à nos capacités, à nos talents, en particulier en matière d'amour, pour le laisser agir lui. Seigneur, nous voulons nous unir à toi. Nous voulons entrer dans ta vie, entrer dans cette vie de lumière et de paix. Nous voulons vivre de ton amour. Alors oui, Seigneur, envoie ton esprit. Donne-nous cette grâce de nous laisser faire, de nous laisser conduire, d'écouter, de méditer ta parole, de suivre ton exemple.